il se dirigea vers la maison, pressé par le fermier, par la femme et par les quatre fils. L'aubergiste était là également, ainsi que les gens de l'auberge qui avaient suivi les allées et venues de l'étranger. Et on se tut, dans l'attente de l'extraordinaire révélation. C'est bien ce que je pensais. Il a fallu que le bonhomme se désaltérât. Et comme il n'y avait que la source...
Voyons, voyons, nous l'aurions bien vu.
C'était la nuit.
Nous l'aurions entendu, et même vu, puisque nous étions à côté.
Lui aussi.
Et il a bu de l'eau du bassin?
Oui.
Comment?
De loin.
Avec quoi?
Avec ceci. Et l'inconnu montra la paille qu'il avait ramassée. Tenez, voilà le chalumeau du consommateur. Et vous remarquerez la longueur insolite de ce chalumeau, lequel, en réalité, est composé de 3 fétus de paille mis bout à bout. C'est cela que j'ai remarqué aussitôt, l'assemblage de ces 3 fétus. La preuve était évidente. L'inconnu décrocha du râtelier une petite carabine. « Elle est chargée ?»«
Ah oui ?»
dit le plus jeune des frères.
« Je m'amuse avec contre les moineaux. C'est du menu plomb. »
« Parfait. Quelques grains dans le derrière suffiront. » Son visage devint subitement autoritaire. Il empoigna le fermier par le bras et scanda d'un ton impérieux. « Écoutez, maître Goussou, je ne suis pas de la police, moi, et je ne veux pas, à aucun prix, livrer ce pauvre diable. 4 semaines de diète et de frayeur, c'est assez. Donc, vous allez me jurer, vous et vos fils, qu'on lui donnera la clé des champs, sans lui faire aucun mal. »
« Qu'il rende l'argent !»«
Bien entendu. C'est juré. »«
C'est juré !»
Le monsieur se tenait de nouveau sur le pas de la porte, à l'entrée du verger. Vivement, il épaula, un peu en l'air, et dans la direction du cerisier qui dominait la fontaine. Le coup partit. Un cri rauque jaillit là-bas, et l'épouvantail que l'on voyait, depuis un mois, à Califourchon sur la branche maîtresse, dégringola jusqu'au sol pour se relever aussitôt et se sauver à toutes jambes. Il y eut une seconde de stupeur, puis des exclamations. Les fils se précipitèrent et ne tardèrent pas à rattraper le fuyard, empêtré qu'il était dans ses loques et affaibli par les privations. Mais l'inconnu déjà le protégeait contre leur colère. « Bas les pattes ! Cet homme m'appartient ! Je défends qu'on y touche !»« Je ne t'ai pas trop salé les fesses, père traînard ?» Planté sur ses jambes de paille, qu'enveloppaient des lambeaux d'étoffes effiloquées, les bras et tout le corps habillés de même, la tête bandée de linge, ligotée, serrée, boudinée, le bonhomme avait encore l'apparence rigide d'un mannequin. Et c'était si comique, si imprévu, que les assistants pouffaient de rire. L'étranger lui dégagea la tête, et l'on aperçut un masque de barbe grise et bouriffée, rabattu de tous côtés sur un visage de squelette où luisaient des yeux de fièvre. Les rires redoublèrent.
L'argent, les billets.
L'étranger le tint à distance. Un moment, on va vous rendre cela. N'est-ce pas, père Traînard? Et tout en coupant avec son couteau les liens de paille et d'étoffe, il plaisantait. Mon pauvre bonhomme, t'en as une touche. Mais comment as-tu réussi ce coup-là? Il faut que tu sois diantrement habile, ou plutôt... que tu es une sacrée venette. Alors comme ça, la première nuit, tu as profité du répit qu'on te laissait pour t'introduire dans cette défroque. Pas bête. Un épouvantail. Comment aurait-on pu avoir l'idée? On avait tellement l'habitude de le voir accroché à son arbre. Mais mon pauvre vieux, ce que tu devais être mal, à plat ventre, les jambes et les bras pendants, toute la journée comme ça. Un fichu position. Et quelle manœuvre pour risquer un mouvement, hein? Quelle frousse quand tu t'endormais! Et il fallait manger! Et il fallait boire! Et tu entendais la sentinelle! Et tu devinais le canon de son fusil à 1 mètre de ta frimousse! Brrr. Mais le plus chouette, vois-tu, c'est ton fétu de paille! Vrai! Quand on pense que sans bruit, sans geste, pour ainsi dire, Tu devais extirper des brins de paille de ta défroque, les ajuster bout à bout, projeter ton appareil jusqu'au bassin et biberonner goutte à goutte un peu de l'eau bienfaisante. À vrai, c'est à hurler d'admiration. Bravo, père Traînard. Seulement, tu sens trop mauvais, mon bonhomme. Tu t'es donc pas lavé depuis un mois, saligo. T'avais pourtant de l'eau à discrétion. Tenez, vous autres, je vous le passe. Moi, je vais me laver les mains. Maître Goussot et ses quatre fils s'emparèrent vivement de la proie qu'on leur abandonnait.
Allô, Oust, donne l'argent.
Si abruti qu'il fût, le cheminot trouva encore la force de jouer l'étonnement.
Prenons pas, c'était l'idiot. Les six billets, et donne.
Quoi? Et qu'est-ce qu'on veut?
Balbutia le père Traînard.
L'argent, et tout de suite.
Quel argent?
Les billets.
Les billets?
Oh, tu commences à m'embêter. À moi, les gars.
On renversa le bonhomme, on lui arracha la loque qui lui servait de vêtement, on chercha, on fouilla. Il n'y avait rien.
Brigand voleur, qu'est-ce que t'en as fait?
Le vieux mendiant semblait encore plus ahuri. Trop malin pour avouer, il continuait à gémir.
Et qu'est-ce qu'on veut? L'argent? J'ai pas seulement 3 sous à moi.
Mais ses yeux écarquillés ne quittaient pas son vêtement, et il paraissait n'y rien comprendre lui non plus. La fureur des Goussot ne put se contenir davantage. On le roua de coups, ce qui n'avança pas les choses. Mais le fermier était convaincu qu'il avait caché l'argent avant de s'introduire dans l'épouvantail.
« Où l'as-tu mis, canaille? Dis, dans quel coin du verger ?»«
L'argent ?»«
Oui, l'argent que tu as enterré quelque part. Oh, si on ne le trouve pas, ton compte est bon. Il y a les témoins, n'est-ce pas? À vous tous, les amis. Et puis, le monsieur !»
Il se retourna pour interpeller l'inconnu qui devait être du côté de la fontaine à 30 ou 40 pas sur la gauche. Et il fut tout surpris de ne pas l'y voir en train de se laver les mains.
« Est-ce qu'il est parti ?»
Quelqu'un répondit.
« Non, non, il a allumé une cigarette, il s'est enfoncé dans le verger en se promenant. »«
Oh, tant mieux, c'est un type à nous trouver les billets comme il a trouvé l'homme. »«
À moins que... »«
À moins que... Qu'est-ce que tu veux dire, toi? T'as une idée? Donne-la donc. Quoi ?»
Mais il s'interrompit brusquement, assailli d'un doute. Et il y eut un instant de silence. Une même pensée s'imposait à tous les paysans. Le passage de l'étranger à Héberville, la panne de son automobile, sa manière de questionner les gens à l'auberge et de se faire conduire dans le domaine, tout cela n'était-ce pas un coup préparé d'avance? Un truc de cambrioleur qui connaît l'histoire par les journaux et qui vient sur place tenter la bonne affaire.
« Rue de Montfort !»
prononça l'aubergiste.
« Il aura pris l'argent dans la poche du père Traînard, sous nos yeux, en le fouillant !»«
Impossible ! On l'aurait vu sortir par là, du côté de la maison ! Or, il se promène dans le verger !»
La mère Goussot, toute défaillante, risqua.
« La petite porte du fond, là-bas !»«
La clé ne me quitte point !»«
Mais tu le lui as fait voir ?»«
Oui, mais je l'ai reprise !» « Tiens, la voilà !»
Il mit la main dans sa poche et poussa un cri.
« Oh ! Cré bon Dieu ! Elle y est pas ! Il me l'a barboté !»
Aussitôt, il s'élança, suivi, escorté de ses fils et de plusieurs paysans. À moitié chemin, on perçut le ronflement d'une automobile. Sans aucun doute, celle de l'inconnu qui avait donné ses instructions à son chauffeur pour qu'il l'attendît à cette issue lointaine. Quand les Goussot arrivèrent à la porte, ils virent sur le battant de bois vermoulu, inscrit à l'aide d'un morceau de brique rouge, ces deux mots « Arsène Lupin ». Malgré l'acharnement et la rage des Goussot, il fut impossible de prouver que le père Traînard avait dérobé de l'argent. 20 personnes, en effet, durent attester que, somme toute, on n'avait rien découvert sur lui. Il s'en tira avec quelques mois de prison. Il ne le regretta point. Dès sa libération, il fut avisé secrètement que tous les trimestres, à telle date, à telle heure, sous telle borne de telle route, il trouverait 3 louis d'or. Pour le père Traînard, c'est la fortune.